franceinter.fr.
Et comme les humains, les rats sont chatouilleux et prennent du plaisir à être titillés, figurez-vous. En étudiant le cerveau de ces rongeurs, on comprend mieux aujourd'hui à quoi sert l'apparition justement de la chatouille dans l'évolution. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Pierre Lemarquis. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes neurologue et neurophysiologiste associé à l'Université de Toulon. Et cette étude parue vendredi dans la revue Science a de quoi faire sourire. Mais pourtant, chatouiller des rats s'avère très instructif au final pour comprendre notre cerveau. Alors comment être certain d'abord que ce que ressentent ces rats chatouillés ressemble vraiment à des chatouilles où nous on l'entend au sens humain du terme?
Ben, parce qu'ils se mettent à chanter, ils sont heureux, semble-t-il, quand on les chatouille. C'est une très belle expérience, ça se passe donc à Berlin, c'est deux savants qui vont chatouiller des rats pour une fois, donc vous voyez, ils donnent du bonheur aux animaux, ils les amadouillent, ils leur chatouillent le dos, le ventre, pour Philippe Reynaud, la queue également, et puis les rats, une fois amadoués, vont se mettre à émettre des ultrasons, c'est des rats mâles, hein, je signale, donc les rats se mettent à émettre des ultrasons, qu'ils émettent habituellement quand ils sont en comportement de séduction ou quand ils jouent entre eux. Alors, ça on le savait depuis déjà quelque temps, mais là on a un enregistrement électroencéphalographique qui permet de montrer que lorsqu'on les chatouille, donc évidemment, ils ont la partie du cerveau qui reçoit le cortex sensoriel, quoi, qui va s'activer, mais il va continuer de s'activer après la chatouille, vous voyez, comme s'il la gardait en mémoire, et surtout il va agir sur la partie antérieure du cerveau, la partie motrice, ce qui va provoquer l'évocalisation. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, à quoi vont servir ces vocalisations? Certainement à renforcer le lien, peut-être déjà avec l'examinateur. Et puis, c'est des souris mâles, donc ils chantent également au printemps pour attirer les femelles.
On a récupéré le son qu'émettent ces rats quand on les chatouille. Alors, vous l'avez dit, pour le rendre audible pour des humains, il a fallu ralentir la fréquence du son, mais ça donne ça.
Donc ça, c'est un rat qui rigole, oui. Axel. Oui.
Et les chercheurs interprètent ça comme un chant de joie, des rires. Vous, vraiment, l'analogie pour vous est bonne?
Mais oui, en tout cas, c'est un proto-langage. Et puis, ils émettent ces signaux quand ils veulent s'accoupler, mais aussi quand ils jouent ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de qui a à voir avec le côté ludique de la chatouille. Puis ils ne se contentent pas d'émettre ce son, ils sautent de joie, comme le fait un enfant qui a été chatouillé par un proche ou qui est heureux. Quoi. Ils sont comme nous, ils sautent de joie quand...
Et ils vont chercher la chatouille,
oui,
Axel. Hein.
Oui,
peut-être les rats de laboratoire les plus heureux de toute la science qui existe dans le monde.
Oui, c'est pour ça, c'est une merveille. C'est quand même un grand changement d'idée dans la science où on va faire plaisir aux animaux. Quand même.
Oui, il y a la vidéo sur le Facebook de la Tête au Carré, d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent
la
voir.
On voit les rats qui viennent chercher leur chatouille. Alors, la question qui vient après, c'est à quoi ça sert évolutivement d'être chatouilleux et à quel moment c'est apparu dans le règne animal?
Alors, pour que ça soit visible dans le cerveau des rats, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien et qui a son utilité parce que c'est vraiment la chatouille, ça va resserrer le lien entre les parents et les enfants. C'est un petit peu la même chose qu'une musique ou qu'un proto-langage qui va permettre à un groupe de se sentir uni, donc plus fort. C'est la même chose que les pouillages chez les chimpanzés, les gorilles. Donc c'est un comportement de toilettage qui dit je ne suis pas agressif, je suis ton ami. Et puis après, on peut espérer un retour d'affection.
Philippe Bruno voulait réagir.
Oui, nos deux invités ont des choses à dire. Philippe d'abord.
Oui, à la fois, merci Pierre de toutes ces explications. Moi je crois que d'abord il y a la notion peut-être d'humour chez le rat, hein, on n'en parle pas trop.
L'humour du rat, oui c'est vrai, on n'en parle pas souvent.
L'humour du rat, et puis c'est vrai que la chatouille, il y a une dimension érotique de la chatouille, c'est dans les jeux amoureux, moi je crois que ça c'est très agréable, et ça évoque quelque chose dont on parlait avec Serge Vinch il y a très peu de temps, il y a une heure, on parlait du toilettage, alors ça t'évoque peut-être quelque chose.
Serge Lynch.
Oui, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le toilettage, les chatouilles, les caresses, c'est-à-dire toutes les stimulations du corps, c'est quelque chose qui existe chez tous les mammifères. Et alors là où c'est extrêmement curieux, c'est que chez l'être humain, dans notre culture, eh bien, c'est quelque chose qui a presque disparu, puisque dans notre culture, c'est vraiment, il n'y a que dans certaines circonstances très particulières qu'on se touche ou qu'on se caresse.
Et justement, chez les rats, les chercheurs notent la même chose, c'est-à-dire que quand le rat est stressé ou de mauvaise humeur, il n'est pas réceptif à la chatouille. Pierre Lemarquis, c'est comme ça qu'on peut le dire?
Oui, c'est-à-dire donc ils ont pris. Bon, on s'en rend compte nous-mêmes si on est mal décidé, on n'a pas envie d'être chatouillé. Et pour les rats, donc ils les ont exposés la nuit à des lumières. Ils n'ont pas pu dormir. Le lendemain, ils n'avaient pas du tout envie d'être chatouillés. Donc l'humeur retentit sur l'acceptation ou non des chatouilles. Quoi.
Est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre une chatouille et une caresse pour des rats?
Ben il y a la chatouille, il y a un petit effet de surprise, c'est quelque chose donc qui peut aller aussi avec les mécanismes de l'humour entre autres, alors que la caresse c'est quelque chose qui arrive plus lentement, qui va peut-être pas provoquer la même chose, ça va être plus doux, ça va être moins fort quoi.
Alors un humain ne peut pas lui-même se chatouiller, est-ce qu'un rat peut se chatouiller lui-même?
Mais s'ils viennent vers le doigt de l'expérimentateur, là je pense que c'est Fibreno qui est expert en la matière, qui pourra nous dire si les rats peuvent se chatouiller eux-mêmes.
Fibreno.
Je ne suis pas expert en chatouille. non mais ça, il y a deux ou trois phénomènes comme ça que récemment on a tenté d'expliquer. C'était le phénomène du bâillement. Il y a eu des explications très récentes et vous en avez parlé. La chatouille. Alors on a l'impression que c'est des choses mineures parce que on se dit quelle utilité. Et je crois que Pierre le Marquis vient bien de l'évoquer. Ça, il y a un lien, par exemple, dans le lien dans l'élevage du lien familial, par exemple. Alors, en tout cas, on le voit chez les humains, ça crée du lien, qu'il soit érotique ou non, la chatouille, en tout cas, un élément relationnel interhumain. C'est pour ça que ça se fait pas seul.
Oui, c'est ça. Mais pourquoi Pierre le Marquis, par exemple, on ne réagit pas au chatouille lorsqu'on est de mauvaise humeur? Pourquoi ça influence justement le chatouiller, l'humeur?
Là, on peut avoir que des suppositions, mais vous savez, par exemple, les gens qui les créateurs, mais vraisemblablement aussi, quand on rumine des idées noires, on se ferme au monde extérieur. Donc, tant qu'on est en train de résoudre un problème de créativité ou d'idées noires, on a tendance à ne pas vouloir d'influence extérieure, de stimuli extérieurs. Donc, ça peut être une des raisons, mais pour le moment, c'est juste une hypothèse.
Pierre le Marquis, vous pensez qu'il faut aller plus loin dans l'étude de la chatouille? Pourquoi pas proposer des séances de chatouille pour être de meilleure humeur? Ça a un intérêt vraiment scientifiquement d'aller plus loin là maintenant qu'on sait que le rat est chatouilleux lui aussi?
Ah bah bien sûr, parce que le but quand même de la science, c'est d'arriver à nous rendre l'existence plus agréable, plus heureuse. Donc si on arrive à prouver l'intérêt de la chatouille, on aura fait un grand pas vers le bonheur.
Ouais, Philippe Bruno, chatouillologue officiel.
Alors il y a eu une vague qui se fait plus aujourd'hui de ce qu'on appelait la gélothérapie. En grec, gélos, ça veut dire le rire. Et j'ai participé à des groupes comme ça. C'est tout à fait étonnant. Alors on cherchait des éléments déclencheurs du rire, mais la plupart du temps, d'ailleurs, on utilisait la chatouille. Et le rire, alors qui est d'abord communicatif, mais qui est surtout extrêmement relaxant, dispensateur d'énergie, amène à des états de détente profonds. Mmh. Et je pense qu'il y a une voie thérapeutique qui n'a jamais été vraiment utilisée, qui, je crois, est intéressante.
Serge Hunsch, vous êtes convaincu également de l'intérêt d'aller plus loin dans l'étude de la chatouille?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux d'ailleurs qui montrent combien le fait de stimuler le corps, c'est quelque chose qui apporte énormément de bienfaits, à la fois sur le système immunitaire, à la fois sur le lien d'attachement, sur les capacités attentionnelles. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont, depuis quelques années, qui montrent vraiment l'intérêt de tout ce qui est la stimulation du corps.
Ça se concilie avec Axel, on commencera la journée dorénavant avec une séance de chatouillis avec toute l'équipe. Voilà, on le fera en collectif en plus, ça sera noté. Beaucoup plus drôle. Merci beaucoup Pierre le Marquis. Donc publication très sérieuse qui est sortie dans Science vendredi dernier. Et je rappelle Pierre le Marquis que vous êtes également l'auteur d'un livre, L'empathie esthétique, qui est sorti aux éditions Dit Jacob. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage.
Merci, bonne journée.
Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs chinois annoncent les premiers essais thérapeutiques contre le cancer à l'aide de la technique CRISPR-Cas9. Dans une publication parue ce matin, l'équipe du professeur Lu Yu de l'université de Chengdu annonce avoir administré le 28 octobre dernier des cellules génétiquement modifiées à un patient souffrant d'un cancer fulgurant du poumon. Ces cellules ont été prélevées directement dans son sang, modifiées génétiquement afin de lutter plus efficacement contre les tumeurs, puis enfin réinjectées dans ses poumons. Aucun résultat n'a encore été dévoilé, mais l'équipe précise que plusieurs injections seront certainement nécessaires. Les fientes des oiseaux migrateurs refroidissent l'atmosphère de l'Arctique. Cette drôle de conclusion nous vient du Canada, où des chercheurs ont observé que chaque année, des milliers d'oiseaux peignaient de leur guano blanc les rochers noirs de l'Arctique. Ces déjections contiennent de l'ammoniac en grande quantité qui, une fois relâché dans l'atmosphère, va s'associer avec l'acide sulfurique de l'eau pour favoriser l'apparition de nuages de basse altitude. Et ces nuages jouent un rôle important pour refroidir l'atmosphère en reflétant la lumière du soleil. Et puis enfin, le séisme de magnitude 7.9 qui a secoué la Nouvelle-Zélande lundi a fait glisser une partie du pays de plus de 10 cm vers le sud-est. C'est ce qu'affirment les sismologues sur place après les premières mesures. Un glissement horizontal de la faille de Kékérengou, où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque australienne qui englobe la Nouvelle-Zélande de 4 cm par an. Sur place, plus de 1200 touristes sont encore coincés et les premiers navires de rapatriement sont arrivés ce matin.